Saviez-vous que la hola, cette vague humaine qui se propage dans les stades de foot, fait partie des phénomènes étudiés très sérieusement par certains scientifiques? Les chercheurs ont remarqué que cette onde tournait le plus souvent dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi des milliers d'êtres humains préfèrent-ils le sens de cette rotation? C'est le phénomène d'asymétrie de notre perception visuelle qui serait à l'origine de cette réaction. L'asymétrie dans le monde vivant peut expliquer beaucoup de choses. Pourquoi, par exemple, l'humanité compte plus de droitiers que de gauchers? Et c'est dans notre cerveau asymétrique que se trouvent bien des réponses. Dossier cet après-midi de La Tête au Carré, avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un peu de beauté dans ce monde souvent peu réjouissant de la biodiversité.
Oui, avec une étude très originale et encourageante faite par des chercheurs français et qui montre qu'un écosystème en bonne santé est souvent un écosystème beau à regarder. Mm-hmm. On en discute avec l'écologue Anne-Sophie Tribaud dans un instant.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette émission qui a été préparée par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le phénomène d'asymétrie dans la nature. Dossier donc dans quelques minutes avec mes invités, les biologistes Myriam Broussigné et Frédéric Flamand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et Jacqueline Fagard, directrice de recherche émérite au CNRS. Bonjour à vous.
Bonjour.
Frédéric Flamand, le phénomène de la hola, j'en parlais dans le sommaire, dans les stades, ce serait lié à l'asymétrie de notre perception visuelle, c'est ça l'histoire?
C'est ça l'histoire, mais c'est pas si sûr que ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'a affirmé un chercheur il y a une vingtaine d'années, mais les statistiques les plus récentes sont pas si catégoriques que ça.
Donc ça discute beaucoup hein, autour de la symétrie. Myriam Roussigné, le cerveau du poisson zèbre, c'est votre modèle de recherche pour comprendre, vous aussi, la symétrie chez l'homme, par exemple?
Oui, on espère que nos découvertes pourront nous amener à mieux comprendre comment se développe la symétrie chez l'humain, et notamment les étapes précoces du développement, puisque c'est ça qui nous intéresse, et on ne sait pas grand-chose chez l'humain sur ce point-là.
Dans le petit cerveau du poisson zèbre, donc, on peut en tirer des conclusions sur le gros cerveau de l'homme. Jacqueline Fagard, c'est l'asymétrie chez les bébés qui vous intéresse, avec entre autres la latéralité droitier-gaucher, c'est cela hein?
Oui, c'est ça. À quel âge est-ce que... on commence à observer une asymétrie chez le bébé et d'où ça vient? Pourquoi est-ce que le bébé choisit vers 6-10 mois d'utiliser sa main droite plus que sa main gauche?
C'est ça, voilà. Trois exemples tout de suite qui montrent la diversité hein, justement des sujets autour de ce thème de l'asymétrie. On va se retrouver donc ensemble dans quelques minutes pour en discuter avec les auditeurs qui nous rejoignent.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et si un paysage beau à regarder était aussi un écosystème en bonne santé?
Découvrir la biodiversité, découvrir des espèces inconnues, communiquer sur elles, bon, c'est faire passer un message sur la beauté de la planète, la beauté de la biodiversité. Je suis quelqu'un de positif, mais je suis pas quelqu'un d'optimiste, c'est pas pareil.
C'était la voix de Philippe Boucher, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et c'est ce que vous venez en gros de vérifier à travers vos travaux, Anne-Sophie Tribaud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes doctorante à l'université de Montpellier et vous publiez cette étude très originale dans la revue Nature qui démontre que beauté et biodiversité sont intimement liés. Pour en parler également avec nous, et comme tous les lundis, Hervé Kempf, notre partenaire du magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Quand on parle de défendre la nature, Hervé, et la biodiversité, on parle rarement de préserver sa beauté. Hein. Et pourtant.
Mais depuis une quinzaine d'années, l'idée s'est effectivement répandue que la biodiversité produit des services écosystémiques. L'exemple classique et facilement compréhensible, c'est celui de la pollinisation des plantes par les abeilles, qui est très utile pour l'agriculture. Et donc, les chercheurs ont développé cette idée utilitariste de la nature, souvent traduite d'ailleurs en monétarisant ces services, c'est-à-dire en leur donnant une valeur économique, et en disant qu'il fallait protéger la biodiversité parce qu'elle produisait ces services, et donc un ajout important à l'économie globale. Alors, à cela s'oppose une critique philosophique, disant que non, il ne faut pas monétariser la nature et qu'elle vaut par elle-même. Et l'étude dont nous parlons aujourd'hui est précisément importante parce qu'elle suit une nouvelle direction que celle des services écosystémiques. Elle va s'intéresser à la valeur esthétique de la biodiversité et montrer que c'est une bonne raison en soi de la protéger.
Et c'est original, on avait envie d'en parler, Axel.
On reparlera, Anne-Sophie Tribaud, de services écosystémiques et de beauté. Mais avant ça, je voulais vous demander, dans les faits, comment vous avez procédé pour démontrer ce lien entre beauté et diversité biologique?
Alors, on a travaillé pour ça en partenariat avec Andromède Océanologie et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée des Corses, qui font donc du suivi du corallisgène méditerranéen, qui est un écosystème sous-marin clé en Méditerranée. Ils utilisent donc des photos standardisées qu'on appelle des quadras pour mesurer différentes facettes de la biodiversité qui donc contribuent donc à la bonne santé des écosystèmes. Donc à savoir la diversité en espèces, la diversité des rôles fonctionnels tenus par ces espèces et leur histoire évolutive. Et on a voulu regarder un petit peu si ces facettes étaient bien corrélées à la perception esthétique qu'on pouvait en avoir. Et effectivement, on a trouvé une corrélation entre ces métriques et des scores esthétiques qui ont été calculés sur chacune de ces photos grâce à un questionnaire photo.
Vous avez montré ça à des scientifiques, à des spécialistes, à des inconnus ?
Alors en fait, il y avait un petit peu de tout, donc c'était un questionnaire en ligne et on avait à peu près 50% de gens issus plus du milieu académique, mais également des gens qui ne connaissaient rien à ces écosystèmes ou en tout cas qui étaient assez peu familiers. Et ce qu'on voit, c'est que le constat est le même. On n'a pas trouvé de différence significative entre des spécialistes du milieu ou non. Donc ça peut en montrer que c'est quelque chose d'assez universel dans ce cas-là.
Donc ça veut dire que ce n'est pas applicable seulement à la biodiversité sous-marine. À votre avis, ça peut marcher pour une forêt ou une plaine ou une campagne ?
Voilà, tout à fait. Parce que en fait, la théorie évolutive derrière, c'est que finalement, les choix esthétiques sont liés à notre histoire évolutive, en fait, au cours de laquelle on a été amené à plutôt préférer les habitats qui nous sont favorables, donc c'est-à-dire là où il y a plus de biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'un écosystème en bonne santé pourra nous fournir donc plus de proies à chasser, de fruits à cueillir, mais également des cachettes pour se protéger des prédateurs. Et donc c'est ce qui explique nos choix esthétiques. Alors ça, c'est pour l'explication évolutive, mais s'ajoute à cela aussi, bien sûr, les aspects culturels au cours de notre expérience et de nos connaissances qui vont aussi venir modifier cette perception esthétique.
Est-ce que les animaux eux-mêmes, alors donc les animaux sous-marins en l'occurrence, pourraient aussi être sensibles à l'esthétique du milieu où ils évoluent ?
Alors oui, d'une certaine manière, puisqu'ils sont obligés un petit peu de s'adapter à leur milieu, que ce soit pour le camouflage ou pour la détection des proies ou pour la sélection de partenaires sexuels. Donc c'est ce qu'on appelle l'écologie visuelle. Mais pour ce qui est des poissons, en tout cas, c'est encore très peu étudié encore aujourd'hui.
On sait que parfois la biodiversité, c'est des animaux qui sont pas forcément beaux, qui sont même laids ou repoussants. Comment on ne tombe pas dans le travers de ne protéger que les animaux beaux ou mignons avec votre étude ?
Le syndrome du panda, par exemple.
Le syndrome du panda.
Voilà, exactement. Donc là, pour cette étude-là, ça tombait très bien parce qu'effectivement, beauté était liée à la biodiversité. Donc pour nous, c'est très pratique. Mais effectivement, pour le pendant de ce qui est laid, ben là, c'est un enjeu d'éducation en fait. Parce qu'avec un autre projet qu'on a fait avec l'Université de Mayotte, on s'est rendu compte sur les poissons de récif que finalement, les poissons moins attractifs représentaient une plus grande gamme de diversité fonctionnelle. Donc là, c'est complètement en divergence. Et dans ce cas-là, la valeur esthétique n'est pas un outil de conservation très pertinent. Et c'est là où justement l'éducation rentre en jeu. Et l'idée, c'est essayer de comprendre en fait ces espèces-là. Parce que, par exemple, il y a certains poissons qui ont, par exemple, un nez un peu plus long, qui peut avoir un aspect moins attrayant. Mais quand on comprend que finalement, c'est un rôle fonctionnel pour pouvoir aller chercher les petites espèces dans le corail, ben, finalement, on trouve cette espèce plus belle parce qu'on comprend pourquoi elle a cet aspect-là. C'est un petit peu là-dessus qu'on aimerait jouer en termes d'éducation à l'environnement.
Hervé Kempfin.
Comment concrètement votre étude pourrait-elle servir à changer les politiques de la protection de la biodiversité ?
Mais déjà, on sait que plus un paysage ou plus un écosystème est jugé beau, plus il y a une motivation sociale à le protéger et à le préserver. Donc ça, c'est le premier point en tant que levier de conservation. Et puis, c'est vrai qu'avec la beauté, on touche à l'émotion, au sensoriel. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile de toucher les gens avec les motifs et pour faire passer certains messages, effectivement. Mais il faut que derrière, il y ait une pertinence écologique et qu'on ne se contente pas seulement de protéger le panda.
Ben oui, parce que Anne-Sophie Tribault, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de discriminer justement des écosystèmes laids en apparence, avec toute la subjectivité évidemment que ça comporte, et qui pourtant ont un rôle essentiel pour leur environnement direct ?
Voilà, c'est ça, c'est tout l'enjeu de l'éducation, de dire qu'il faut essayer de comprendre aussi ce qui est laid, et en comprenant des écosystèmes qui nous paraissent laids, finalement comprendre les rôles écologiques qu'il y a derrière, et bien essayer de les apprécier à leur juste valeur.
Une dernière question, pour revenir sur ce que disait Hervé au tout début, est-ce que la beauté peut être comptée comme un service écosystémique à proprement parler ?
Alors oui, c'est donc considéré comme un service culturel, bien qu'il soit pas chiffrable ou pas matériellement quantifiable. En tout cas, il apporte du bien-être aux populations humaines. Voilà, en apportant un sentiment de paix, de sérénité. On sait aussi que la beauté des paysages est impliquée pour la santé. Mmh. Voilà. Donc c'est... oui, effectivement.
C'est-à-dire, petite précision là-dessus.
Alors, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les paysages, enfin sur les fenêtres dans un hôpital. Mmh. Et ils avaient vu que les patients qui étaient face à un espace vert se rétablissaient plus vite que les autres.
C'est vrai, voilà, on en avait discuté, je me souviens, effectivement, oui. dans cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos précisions, Anne-Sophie Tribault. Et justement, vous arrivez de Mayotte, hein, où vous mettiez en place la suite de vos recherches. Merci beaucoup, voilà. en tout cas, d'être passé à la Une de la Science. Merci Hervé, avant de vous quitter, un mot quand même sur la fin de la COP22 qui s'est terminée à Marrakech. Qu'est-ce qu'on retient en quelques mots?
Pas grand-chose.
Oui, hein.
Une COP22 très technique qui cherchait à mettre en œuvre un certain nombre de détails de l'accord de Paris. Mmh. Même sur ces aspects techniques, ça a très peu avancé. La COP a été secouée, elle a été sonnée presque comme un boxeur par l'arrivée de Monsieur Trump au pouvoir aux États-Unis avec sa position très anti-climat. Et puis, troisième élément important, la Chine, paradoxalement, devient une sorte de champion de la lutte contre le changement climatique, précisément parce que les États-Unis, avec M. Trump, vont se retirer de nouveau.
Merci beaucoup Hervé, et puis toutes ces infos sont à retrouver sur reporter.net comme chaque semaine. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la science qui est en crise en Argentine, et les scientifiques qui se préparent à des moments difficiles et douloureux face à un Sénat qui a décidé de saborder le budget de la recherche pour l'année 2017, prouvant que ça n'est plus sa priorité. Dans le cadre de son plan d'équilibrage, le gouvernement argentin entend réduire de 198 millions de dollars le budget des sciences et de la technologie qui atteindrait 2,1 milliards de dollars pour 2017. C'est une diminution dans ce pays de 8,5%. À titre de comparaison, la France investit 23 milliards cette année et les États-Unis 90 milliards. La marche pour lutter contre le déclin cognitif lié à la maladie d'Alzheimer, selon une étude américaine, l'activité physique chez les personnes âgées apporte une protection contre le déclin cognitif et des formes de démence. Ces travaux ont été menés sur des personnes volontaires, toutes équipées spécialement d'accéléromètres pendant la durée de l'étude. Et justement, ces données récoltées montrent que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont des profils quotidiens d'activité bien plus faibles que les autres. Les auteurs rappellent que favoriser et encourager des activités simples comme la marche s'avère un excellent préventif contre de nombreuses pathologies liées à l'âge. Et puis pour finir, découvrez la très belle vidéo du système saturnien publiée par l'Observatoire de Paris, ce système planétaire d'une extraordinaire complexité qui se compose de 62 satellites de formes, de taille et de composition très variées. Et bien depuis 2004, la sonde Cassini en orbite autour de Saturne fournit son lot incessant d'images liées à cet environnement. Et grâce à ces données précieuses, les chercheurs proposent une nouvelle vision de l'évolution de ce système qui est donc à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, nous allons découvrir l'asymétrie dans un instant avec mes invités. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year for my family. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year. Mama's gone around the bend. She hears voices in her head. Now with all the drugs she takes, can't recognize my face. May she get well soon. May she get well soon. Trying to break this spell. May we get well soon. May we get well soon. I'm trying to break this spell. May we get well. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year. It's been a tough year.
With a keen and grandma's eye, we'll be alright in the end.
Cocoon avec Get Well Soon.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Exploration cet après-midi donc d'un phénomène dans la nature à l'origine de beaucoup de questions scientifiques, celui de l'asymétrie. Alors on va parler de dissymétrie aussi pour bien comprendre notre sujet. Vous allez comprendre justement pourquoi les chercheurs s'intéressent à l'asymétrie dans un nombre de domaines assez variés. Pour en parler donc Frédéric Flamand, vous êtes biologiste du développement, directeur de recherche à l'INRA et auteur du livre La science insolite de l'asymétrie, de la hola au neutrino. C'est très vaste effectivement, ce livre vient de sortir aux éditions du Seuil. Jacqueline Fagard, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire psychologie de la perception. Et puis Myriam Broussigny, vous êtes biologiste du développement au centre de biologie intégrative du CNRS. C'est au sein de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Voilà, beaucoup de questions déjà de la part des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Frédéric Flamand, pour commencer, en tant que biologiste, vous, qu'est-ce que ça représente donc la dissymétrie dans votre travail? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce phénomène alors?
Alors, en fait, on retrouve de la dissymétrie absolument partout. On a un peu l'habitude de trouver naturelle la symétrie.
Ouais.
Mais c'est en fait une particularité dans le monde vivant qui s'applique aux animaux qui s'appellent les bilatériens, c'est-à-dire éventuellement des animaux qui se déplacent rapidement et pour lesquels une morphologie symétrique est favorable. Mais au fond, l'anatomie interne des animaux en général n'est pas du tout symétrique.
Ouais, et notre anatomie humaine en est la preuve, pour reprendre quelque chose qu'on connaît bien. Alors, vous étudiez quoi exactement dans ce domaine? C'est vraiment tout ce qui est le développement biologique?
Oui, moi, mon travail personnel est sur le développement cérébral et, à vrai dire, pas relié à la symétrie, proprement dit. Mais ça m'a amené à m'intéresser effectivement à ces questions de dissymétrie qui sont très profondes en fait en biologie du développement.
Ouais. Vous travaillez sur un animal en particulier?
La souris. Hein.
Ouais, c'est votre animal modèle. Oui. Pas le poisson zèbre encore.
Non, pas de
comme
mon côté.
Notre invité, Myriam Roussigny, parce que vous, c'est vraiment ce petit poisson. On en a parlé déjà dans l'émission. On lui consacrera d'ailleurs un dossier entier dans quelques jours. Le cerveau du poisson zèbre. D'abord, il a quelle taille exactement? C'est tout petit, un poisson zèbre?
Oui, c'est petit, un poisson zèbre. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il fait à peu près 4-5 cm à l'âge adulte. Et donc nous, on travaille sur des embryons qui font juste quelques millimètres, entre 1 et 2 millimètres, donc de la tête à la queue.
Ouais.
Donc le cerveau fait quelques centaines de micromètres.
D'accord. Et comment vous étudiez ça alors ?
Alors, on étudie ça grâce à des microscopes. Heureusement que la physique a fait beaucoup de progrès. Et donc, justement, un des avantages du poisson zèbre, c'est qu'on peut l'imager facilement. C'est avant tout un bon outil pour faire de l'imagerie in vivo, en temps réel. On peut le mettre sous un microscope vivant depuis le moment où l'œuf est pondu, depuis le stade 1 cellule, et regarder tout son développement à une échelle résolutive très haute, donc au niveau cellulaire. On peut regarder comment les cellules vont se diviser, vont se multiplier, s'arranger entre elles pour former des tissus et des organes.
Ouais, et tout ça va très vite, ce processus est extrêmement rapide.
Oui, c'est ça l'avantage. Donc c'est qu'il a un développement extérieur, Ces tissus sont transparents, c'est ce qui permet qu'on puisse l'imager, mais son développement est également rapide. Donc en 24 heures, on passe d'une cellule à un petit embryon qui a à peu près tous les organes essentiels. Donc le cœur, le cerveau sont formés, les somies qui vont donner les vertèbres. Et même les premiers neurones sont formés, puisque ce petit poisson, déjà à 24 heures, il a ce qu'on appelle le réflexe de touche. Quand on le touche, il va bouger. Donc ça montre qu'en fait les neurones sensoriels sont déjà actifs.
Ouais, donc tout ça va extrêmement vite, ce qui est très pratique pour faire gagner du temps également aux scientifiques, parce qu'on a vraiment ce développement ultra rapide sous les yeux.
Le cerveau étant petit et le développement rapide, on peut avoir une image globale en fait du développement du cerveau, enfin de tous les organes, mais en particulier du cerveau.
Ouais.
Et donc voir comment les cellules vont s'agencer et former cet organe complexe.
Ouais, alors on va y revenir avec vous, mais juste une question encore là-dessus. Comment est-ce qu'on a eu l'idée justement de s'intéresser au cerveau minuscule de ce poisson pour en tirer des conclusions pour l'homme ?
Alors, le poisson zèbre a émergé comme un modèle pour étudier le développement. Mmh. Donc comment on passe du stade d'une cellule, comme je disais, à un organisme qui est formé de différents tissus, différents organes. Donc ça, c'est la question qui anime tous les chercheurs, avec tous mes collègues, notamment enthousiastes au CBI, enfin une partie de mes collègues qui travaillent sur la biologie du développement. Et donc, c'est un modèle pour étudier ces processus biologiques de développement et notamment le développement du cerveau. Et il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, des chercheurs ont mis en évidence que le cerveau était asymétrique et se sont mis à caractériser, du coup, cette asymétrie et à chercher les gènes qui étaient impliqués dans la mise en place de cette asymétrie.
Ouais, on va en discuter avec vous pour voir justement quelles conclusions on peut tirer de ces observations. Jacqueline Fagard, l'asymétrie gauche-droite, on le disait tout à l'heure, c'est votre sujet. C'est un thème récurrent dans beaucoup de disciplines scientifiques d'ailleurs ?
Non, c'est pas un thème tellement fréquent chez nous en développement. On n'est pas tellement nombreux à s'intéresser à ça. Ce qui est un peu frappant, on disait que les asymétries sont partout, mais en fait le corps il est symétrique, donc c'est ça qui est un peu étonnant. Mm-hmm. On a deux bras, deux yeux, deux oreilles, et pourtant on les utilise
apparence,
on a deux pieds. En apparence,
c'est notre enveloppe extérieure au fond.
Et en fait, on les utilise de façon relativement asymétrique. Et dans le domaine du développement, c'est relativement intéressant de s'intéresser aux asymétries parce que dans la plupart des troubles du développement, il y a un manque d'asymétrie.
Ouais. Alors, par exemple, elle est un petit peu plus loin.
Par exemple, si vous regardez les enfants qui ont des problèmes de mentaux, des problèmes d'autisme, des problèmes de bégaiement, des déficiences intellectuelles, il n'y a pas plus de gauchers, comme on disait autrefois, mais il y a plus d'enfants non latéralisés.
Ouais.
Dans le cas du développement normal, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut très bien se développer normalement et ne pas être très latéralisé, être ambidextre, être gaucher, sans que ce soit aucun problème. Mais il se trouve que tous les troubles du développement sont associés à un déficit de latéralisation.
On le sait depuis longtemps, ça, ou c'est une découverte plutôt récente ?
On le sait depuis relativement longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle de la gaucherie pathologique, mais il y a un côté culturel là-dedans. C'est-à-dire que vous savez donc que gaucher, c'est associé dans toutes les langues à quelque chose de négatif. Donc on s'imagine toujours qu'être gaucher, c'est quelque chose de pathologique. Ouais. Ce qu'on sait depuis, mettons, une vingtaine d'années, c'est que c'est pas plus pathologique que d'être droitier. Ce qui est peut-être un petit peu plus ennuyeux, c'est de ne pas être latéralisé.
Frédéric Flamand, dans votre livre, beaucoup d'exemples, certains très étonnants, d'autres extrêmement drôles. Louise nous dit par exemple ceci, un sein plus gros que l'autre chez la femme, un testicule plus gros que l'autre chez l'homme, est-ce le cas pour tout le monde et à quoi est-ce dû ? Alors c'est un des exemples que vous prenez justement
avec un
professeur qui a même fait une étude sur les statues grecques.
Tout à fait, qui a gagné le prix Ig Nobel à faire ça, c'est-à-dire qu'il est allé voyager en Italie pour vérifier la position des testicules sur des séries de statues et de copies de statues dans les musées et pour obtenir des statistiques qui sont vraiment très fiables. Et qui complète d'ailleurs des statistiques qui ont été obtenues chez l'homme par des...
Sur l'anatomie générale.
Un médecin chinois dans les années 60 a fait des centaines de mesures, etc. Donc, ça me rappelle une émission que j'ai entendue sur votre antenne il y a quelques semaines où il y avait, je crois, Thomas BDD qui disait, mauvaise nouvelle pour les gens qui ont une maladie grave, les chercheurs sont en train de s'amuser. Mm-hmm. Donc, pour la solution pour la maladie grave, faudra attendre un petit peu. En pratique, c'est effectivement cette histoire de testicules, c'est un peu étrange, un tel intérêt pour ça, parce que finalement, on voit pas trop les tenants et les aboutissants de cette recherche-là. Mais globalement, on peut rentrer ça dans le cadre global de ce qui est l'étude de la symétrie morphologique. qui touche en particulier les mains, évidemment les fonctions comme l'audition, la vue, etc.
Donc là, on a un bel exemple de dissymétrie, justement.
Oui, hein. Subtil, pas facile à voir, mais réel.
Mais alors, il est lié à quoi alors? On sait exactement la cause?
On n'est pas obligé de chercher une cause à la dissymétrie. Dans certaines mesures, la vie est basée sur la dissymétrie au départ. C'est-à-dire que les briques essentielles de la vie, les cellules sont dissymétriques, et les molécules qui forment les cellules sont également dissymétriques. Donc finalement, c'est peut-être la symétrie la question plutôt que la dissymétrie. C'est comment arriver à faire un organisme qui soit asymétrie bilatérale, alors que spontanément les cellules sont asymétriques.
Alors on va écouter justement l'extrait d'un documentaire qui avait été diffusé dans l'émission Le Magazine des Sciences. Ça date de 1968 et ça s'appelait Les lois de la symétrie.
Bien sûr, si on se penche sur le monde naturel, le monde vivant, on constate en général que l'une des espèces est prépondérante. Mais ça, ce ne sont pas les lois de l'univers qui l'ont voulu. C'est les lois propres aux êtres vivants. Si les êtres vivants fabriquent des molécules droites, c'est qu'eux-mêmes, dans leur corps, possèdent certaines molécules qui sont droites ou gauches. Et en remontant d'origine en origine, on s'aperçoit finalement que si la vie a pris une tendance droite ou une tendance gauche, c'est qu'à l'origine, s'est trouvée une molécule primaire. Il n'y en avait peut-être pas qu'une, mais en tout cas, il y en a une qui a prédominé, qui a imposé son sens à toute sa descendance.
Voilà, c'était Claude Roux qu'on entendait il y a un instant, donc ce documentaire de 1968. Frédéric Flamand, vous êtes d'accord avec ça? Au fond, le dernier ancêtre commun, la toute première cellule, était déjà dissymétrique?
Alors évidemment, si on parle des origines de la vie, il y a beaucoup de spéculations, hein, parce que ça se passe il y a longtemps. Mais disons qu'il y a quelques éléments, oui, qui laissent penser qu'à l'origine, la vie est apparue dans un monde dissymétrique, avec des molécules qui sont dissymétriques. Et c'était une des fonctions de la mission Rosetta, d'aller vérifier si les molécules extraterrestres qui pourraient être à l'origine de la vie sont au départ déjà dissymétriques. Malheureusement, c'est l'expérience qui a raté sur Rosetta.
Pas de chance. Oui, Jacqueline Fagar.
Oui, je crois que une des plus anciens témoignages des asymétries, c'est il y a à peu près 500 millions d'années, quand on regarde les fossiles de trilobites, qui sont à 70%, en tout cas beaucoup plus de 50%, mordus par leurs prédateurs du même côté. C'est-à-dire ce qui fait dire qu'ils avaient déjà, il y a 500 millions d'années, il y avait déjà ces tendances directionnelles dont vous parlez beaucoup dans votre livre, et qui probablement étaient déjà présentes à l'époque.
Ouais, c'est ça, c'est que cette dissymétrie, donc elle se retrouve sur le plan biologique et anatomique, mais également dans les comportements, Frédéric Flamand? C'est-à-dire le fait d'être mordu à gauche, par exemple, marcher plus à gauche. Enfin, vous citez des animaux, par exemple, qui ont l'habitude de tourner beaucoup plus à gauche qu'à droite. Les chevaux, je crois, en particulier.
Oui, les cavaliers savent ça. Les chevaux ont un côté préféré pour courir en tournant. On se focalise beaucoup sur les gauchers droitiers chez les hommes, c'est-à-dire finalement la dissymétrie des fonctions manuelles. Mais en fait, la dissymétrie est dans tous les comportements. Et chez les animaux, on en trouve absolument partout. On en trouve chez les poissons, qui ont une tendance à tourner à gauche plutôt qu'à droite. On en trouve chez les perroquets. Il y a absolument, pratiquement tous les comportements qui ont été étudiés, on peut trouver un élément dissymétrique.
Si vous mettez des dauphins dans un aquarium rond, au bout d'un certain temps, les choses vont s'organiser en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et nous, on a fait une expérience avec des adultes hommes, et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que d'où qu'on parte quand on doit courir très vite autour d'un rond, on a tendance, en grande majorité, ça ne se divise pas 50-50 en sens antihoraire et en sens horaire, la majorité va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce n'est pas lié à une asymétrie du pied.
Ouais, et vous dites un autre exemple, justement, Frédéric Flamand, c'est que les voleurs poursuivis par des policiers vont justement fuir à grande majorité, en tout cas, vers la gauche.
Alors, je n'ai pas la source originale de cette affirmation. C'est un article en japonais par un journaliste japonais qui a été traduit en anglais, mais c'est écrit.
Bon, et c'est troublant parce que ça rejoint exactement ce que vous nous dites.
Si on prend les joggeurs dans un parc, tout le monde peut constater ça. Un parc à peu près circulaire, les gens tournent toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sur une piste d'athlétisme, les courses sont toujours dans le même sens.
C'est vrai.
Les vélodromes.
Oui, les hippodromes. Tout. Les courses de voitures également.
Allez, on y revient dans un instant. C'est le dossier de l'émission aujourd'hui avec cette dissymétrie et vos messages, franceinter.fr.
J'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance. Ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes encore. Une mise à mort dans un corps à corps. Je pensais pas pouvoir le faire sans avoir appelé ma mère d'abord. Et je l'appelle encore. À genoux et entouré de fous, contre tout fallait rester debout. Moi j'aurais pu fuir le combat, pas trahir les autres encore une fois. Pas de cinéma, pas saison de lave. J'avais faim de faire la guerre sans pouvoir appeler ma mère d'abord. Mais je l'appelle encore. Et je l'appelle encore. Oh. Silence à Mora, je suis pas vraiment normal. Pour sortir des flammes sans plus jamais brûler mon âme. Je pouvais voir les hirondelles, le temps d'un vent et des ombrelles. Y a un goût amer qui reste longtemps parmi mes amis, mes amours et mes amants. Quand j'avais le goût des étincelles, quand j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant parmi mes amis, mes amours et mes amants.
Et je l'appelle encore Véronique Sanson dans notre Tête au carré consacrée donc à l'asymétrie, à la dissymétrie, hein, pour bien préciser les choses, avec ce livre La science insolite de l'asymétrie, de Laola au neutrino que vous signez Frédéric Flamand aux éditions du Seuil, et nos invités donc avec vous Jacqueline Fagard et Myriam Roussigné. L'asymétrie, à quoi ça sert, demande Jean-Paul. Elle est toute simple cette question, mais on ne le sait pas forcément, hein, finalement, Myriam Roussigné. Il y a encore plein de mystères autour de cette question.
Oui, il y a pas mal de mystères. Il y a différentes hypothèses qui ont été émises, donc chez l'homme et qui viennent aussi d'observations chez les animaux. Mm-hmm. À partir du moment où il y a quelques décennies, on a commencé à étudier les comportements asymétriques chez les animaux. Il y a une hypothèse qui suggère que ça nous permet de faire deux choses en même temps. Tout bêtement. Et donc cette hypothèse, elle est supportée par une étude chez le poulet. Donc le poulet a un système visuel qui est très latéralisé. Et on sait qu'en fait, les poulets utilisent majoritairement l'œil droit pour se nourrir et discriminer entre les graines et les cailloux. Mmh. Et ils vont utiliser l'œil gauche pour vérifier la présence d'un prédateur. Et on sait que les poulets qui sont pas asymétriques, donc on peut facilement manipuler l'asymétrie du système visuel chez le poulet en mettant les œufs juste avant l'éclosion, en mettant les œufs au noir.
En les éclairant ou pas, c'est ça?
En fait, la lumière va latéraliser le système visuel juste avant l'éclosion. Et en mettant les œufs au noir, ces poulets ne seront pas latéralisés. Et donc, ils arrivent toujours à discriminer les graines des cailloux, hein, mais ils vont pas être latéralisés. Ils vont utiliser soit un œil, soit l'autre.
Ouais.
Mais par contre, si on les confronte à un prédateur, là, ils vont complètement perdre pied et ne plus être capables de se nourrir correctement et de discriminer les graines et les cailloux en présence d'un prédateur.
C'est
parce
ça.
Qu'ils ne peuvent pas faire les deux tâches en même temps.
Ouais, Frédéric Flamand, donc là il y a un avantage évolutif justement à l'asymétrie, être capable justement de diviser quasiment le cerveau en deux.
Mais disons qu'en biologie c'est un réflexe qu'on a quand on voit quelque chose qui a persisté au cours du temps, on se dit il doit y avoir un avantage évolutif.
Voilà, oui. Ouais.
Et cette expérience-là, effectivement, elle est très parlante parce que c'est vraiment une situation naturelle. Manger ou être mangé, c'est vraiment une situation dans laquelle se trouvent les poussins et où se trouvent des tas d'animaux. Mmh. Et avoir effectivement un cerveau capable de gérer plusieurs tâches en même temps, c'est sans doute un des avantages. Oui.
Oui. Jacqueline Fégar.
On pourrait juste ajouter que ça permet aussi d'être latéralisé, ça permet aussi de choisir très vite. Oui. Par exemple, j'ai eu des témoignages de parents, d'anciens ambidextres, qui me disaient « j'ai un gros problème à l'école, j'avais un gros problème étant enfant, parce qu'au début d'un devoir en temps limité, il fallait que je me dise « avec quelle main j'écris ?» Et donc si on se dit « avec quelle main j'écris ?» pendant ce temps, hein. Et ben, on ne pense pas au sujet.
Ouais.
Et c'est pareil probablement pour le langage, c'est-à-dire le langage qui est quelque chose où on doit traiter les choses très très rapidement, en sachant tout de suite dans quel hémisphère on le traite, ça... probablement gagne du temps ça a probablement un avantage attentionnel.
Ouais. L'hypothèse, c'est que ça évite les conflits, en fait. Parce que si chaque hémisphère décide, on peut avoir un laps de temps avant de prendre une décision. Alors qu'un attribut à une fonction, hémisphère, ouais. On peut aller plus vite en évitant les conflits.
Alors, il y a cette question, justement, d'Emeric, qui complète, justement, cette discussion que nous avons. Lui, il se demandait quel intérêt évolutif offrait l'inversion droite-gauche entre nos hémisphères cérébraux par rapport au reste de l'organisme. Alors, est-ce qu'on a la réponse, d'abord, Frédéric Flamand, à cette question?
Moi, je ne l'ai pas, en tout cas, et ouais. Je crois que personne ne l'a, mais je ne veux pas être trop présomptueux, il me semble que non.
Jacqueline Fégar, aucune réponse à cette question? Pourquoi effectivement?
Non, j'irais même plus loin. Je dirais, est-ce qu'on peut vraiment poser la question? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui nous arrive.
Oui,
on veut toujours
la poser.
On a raison de la poser, mais est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est parce que ça a un avantage? Ou alors que c'est parce que c'est lié à quelque chose qui peut-être.
Pas forcément, sans parler forcément d'avantage, mais en tout cas, c'est vrai que c'est troublant de voir que l'hémisphère gauche s'occupe de fonctions qui correspondent à la droite sur notre corps et vice-versa.
Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout n'est pas croisé. C'est que, par exemple, sur le plan moteur, la motricité proximale, c'est-à-dire celle des bras par rapport à celle des mains, elle n'est pas forcément croisée.
Mm-hmm.
Que même le contrôle de la main droite, c'est l'hémisphère gauche, et le contrôle de la main gauche, c'est l'hémisphère droit, mais pas pour toutes les actions.
Oui.
Dès que l'action devient complexe,
il n'y a pas de règle
absolue
là-dessus. Hein.
C'est l'hémisphère gauche qui contrôle la main droite et la main gauche, par exemple.
Ouais. Myriam Roussigné, est-ce que le poisson zèbre a des informations à nous livrer là-dessus?
Oui, en fait, peut-être je peux déplacer la question vers... Là, on a émis des hypothèses sur pourquoi c'est important d'être asymétrique. Après, la question, c'est pourquoi c'est important d'être latéralisé, tous, d'avoir tous une asymétrie dans la même orientation.
Mm-hmm.
Et ça, c'est des questions qu'on essaye d'aborder avec les modèles animaux. Et une question qui va encore plus loin, donc par exemple, pourquoi il y a 90% de droitiers et 10% de gauchers? Si l'avantage, c'est juste d'avoir une main préférée, on pourrait imaginer qu'il y a 50% dans la population.
Eh oui.
Mais... Donc il y a des études qui ont montré pas beaucoup mais chez certains animaux qu'en fait cette orientation de la symétrie au niveau de la population donne un avantage au niveau de l'interaction sociale. Donc globalement plus les animaux ont des interactions sociales plus leur asymétrie va être toujours orientée dans la même direction. Mais après on peut du coup se poser la question s'il y a un avantage à être tous orientés, tous latéralisés avec la même orientation, pourquoi on conserve cette petite minorité d'invertés, d'animaux qui sont réversés, ou chez l'humain par exemple, pourquoi on maintient ces 10% de gauchers?
Voilà.
En fait.
Alors, Jacqueline Fégar, des réponses, vous qui étudiez ça de très très près. Il y a combien? 80-90% de droitiers?
Il y a à peu près 90% de droitiers, il n'y a pas loin de 10% de gauchers. Évidemment, ça dépend des cultures, puisque les cultures où la main gauche est un peu considérée comme la main pure, on a beaucoup moins de gauchers.
Mmh.
Et il y a à peu près 2 ou 3% de personnes complètement ambidextres. Bah, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà être capable de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on est droitier? Pour pouvoir répondre à l'autre question, pourquoi est-ce qu'il y a 10% d'enfants? Moi, je peux vous donner une première réponse. Je pense que les enfants qui deviennent droitiers, je pense qu'on est avec beaucoup, une forte tendance. On est très nombreux à avoir une tendance à la droiterie. Mais cette tendance, elle est très faible. Et donc, si ce n'est pas renforcé tout au long et de in utero et ensuite dans les premiers moments de la grossesse, de la vie et jusqu'à ce que l'enfant commence à écrire, si ce n'est pas renforcé suffisamment, il y a une chance que l'enfant choisisse un côté ou l'autre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a une grande plasticité et que la plupart des enfants deviennent droitiers. Mais s'ils vivent une activité où on leur demande vraiment de faire Si les enfants gauchers font une activité où on leur demande d'être, de faire comme des droitiers, ça pose pas de problème.
Ils vont pouvoir justement, grâce à la plasticité, réorganiser les choses. Hein. Mais alors, quand on regarde le fœtus, par exemple, là, on voit des choses aussi intéressantes.
Très tôt.
Dès le plus jeune âge de la vie, on voit, par exemple, le fœtus qui suce son pouce.
Très tôt, 14 semaines.
Le fait plutôt avec le pouce de la main droite.
La plupart des fœtus, ça s'observe peu.
Mais
quand ça s'observe, la plupart des fœtus le font avec la main droite, c'est le pouce droit qu'ils sucent, effectivement. Mmh. Et si le médecin irlandais qui a suivi comme ça plus d'une centaine de fœtus et qui les a retrouvés 12 ans après, ceux qui suçaient leur pouce droit étaient devenus droitiers et une bonne partie de ceux qui suçaient leur pouce gauche étaient devenus gauchers. Mais il n'y a pas que ça in utero, hein. Il y a aussi la symétrie posturale qui, je pense, est très importante. C'est-à-dire que les fœtus ont tendance à tourner la tête du côté droit et c'est de plus en plus vrai au fur et à mesure de la grossesse.
Ouais. Frédéric Flamand, vous citez le sommet de notre crâne avec nos cheveux qui ne sont pas plantés là non plus de façon symétrique. Il suffit d'observer le crâne de nos congénères. Il y aurait une corrélation entre le sens de l'enroulement des cheveux et là aussi le fait d'être droitier ou gaucher?
Alors c'est ce qu'avait proposé un chercheur américain qui a finalement renoncé à cette théorie puis qui a peut-être eu tort d'y renoncer parce qu'il y a des Allemands qui ont repris l'idée.
Allons bon.
Ouais. Donc il va falloir fouiller encore un peu. Mais l'idée générale est de dire que finalement l'anatomie globale de l'organisme est asymétrique et que finalement le cerveau n'est que influencé par cette asymétrie globale d'une façon ou d'une autre. Donc il y a d'autres théories, mais il y a un lien entre l'asymétrie du cerveau et l'asymétrie anatomique générale. Oui.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion avec les messages des auditeurs franceinter.fr et le mot-clé l'attaque dans la tête au carré. Here goes by Marianne Faithfull et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Frédéric Flamand, Jacqueline Faga et Myriam Roussigné sont mes invités pour parler de la symétrie avec ce livre, donc La science insolite de la symétrie, de la Ola au Neutrino. Frédéric Flamand, c'est chez Seuil avec la collection Science Ouverte. Vous me confiez tout à l'heure quelque chose hors antenne sur un épisode de votre enfance qui s'est passé dans les bassins, justement, où vous étiez nageur. Et je me suis dit, tiens, finalement, c'est la raison pour laquelle cet homme s'est intéressé un jour à la dissymétrie. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement, Frédéric Flamand?
Eh ben, ça me revient à l'instant.
Mais oui, vous voyez, finalement, hein.
Oui, c'est ça, c'est comme
une psychanalyse gratuite en direct à l'antenne.
Eh ben, quand j'étais gamin, je faisais des compétitions de natation et j'arrivais pas à faire une brasse symétrique, et j'étais disqualifié pour brasse dissymétrique. Et je ne sais toujours pas pourquoi je n'arrive pas à nager la brasse de façon symétrique.
Voilà. Et ça vous a peut-être marqué, ça hein, doit être ça. Jusqu'à travailler là-dessus et en faire un livre aujourd'hui pour prendre votre revanche justement sur cette dissymétrie liée à la nage. Ludovic nous dit ceci, je me demandais si la symétrie dont nous parlons et qui touche tous les êtres vivants pourrait être liée à la rotation de la Terre. Oula, qu'est-ce que vous en pensez ? Rien m'en signé.
Absolument aucune idée.
Vous n'avez pas d'idée. un embryon d'hypothèse, non, bah, même pas.
En tout cas, un élément de réponse, c'est que tout se passe pareil dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Hein. Mmh. Il n'y a pas des tendances inversées.
Oui. Les chevaux courent toujours à gauche plutôt, ou il y a toujours plus de droitiers ou de gauchers, quel que soit l'hémisphère. Voilà. Ben justement, on va aller aux origines de l'univers, parce que là aussi, il y a une question de dissymétrie, elle est passionnante. Et c'est Étienne Klein qui répondait à Sophie Bécherel sur la brisure de la symétrie en 2008.
Dans l'univers d'aujourd'hui, n'existe que des particules de matière. Donc les électrons, les protons qui constituent nos atomes, sont des particules de matière. Or, on sait que dans l'univers primordial, il y a 13,7 milliards d'années, il y avait dans l'univers autant de matière que d'antimatière. Il y avait des particules et des antiparticules. Et donc l'univers, à cette époque-là, était très symétrique. Aujourd'hui, il l'est moins puisqu'on est constitué essentiellement de matière. Et la question est de savoir comment on est passé d'un état symétrique à un état qui aujourd'hui est dissymétrique.
Et c'est là qu'intervient la brisure de symétrie ?
Voilà, c'est parce que pour construire des théories physiques, pour faire des modèles qui prétendent décrire la réalité, il faut invoquer des symétries, des choses régulières. Par exemple, on va dire que l'espace est le même en tout point, que le temps a des instants qui sont tous équivalents du point de vue des lois physiques. Si on ne fait pas ces simplifications, les équations sont beaucoup plus trop compliquées et on ne peut pas les résoudre. Et le problème, c'est que l'univers tel qu'on l'observe est, pour beaucoup d'aspects, moins symétrique que ce que les équations nous en disent. Et c'est cette brisure de symétrie qu'il faut expliquer.
Ah, ben ça c'est passionnant, Frédéric Flamand. Vous vous rendez compte, aux origines de notre univers, finalement, c'est cette dissymétrie qui aurait fait basculer le monde dans la matière. Hein.
Alors effectivement, il y a une tentative générale d'expliquer des phénomènes dissymétriques à une certaine échelle par une dissymétrie qui est l'échelle inférieure. Donc la dissymétrie de l'organisme par rapport à une dissymétrie dans les cellules, la dissymétrie des cellules par rapport à la dissymétrie de la chimie du vivant.
Oui.
Et puis l'étape ultime, c'est d'arriver à expliquer la dissymétrie du vivant en termes de dissymétrie physique des particules.
Ouais.
Alors il y a des théories qui proposent ça. Il y a effectivement de la dissymétrie. Alors chez les physiciens, on appelle ça de la parité, la symétrie. C'est parce qu'il y a des tas de formes de symétrie en physique. Mais donc la rupture, la violation de la parité existe dans certaines réactions avec les physiques, dans la physique des particules. Et il y a des théoriciens qui ont essayé de relier ça au fait qu'on ne trouve qu'un seul type de molécule dans le vivant.
Mmh.
Par exemple, des acides aminés de type 3. Honnêtement, pour l'instant, sont des théories, il n'y a pas d'arguments expérimentaux et il n'y a pas vraiment d'expérience possible à court terme qui permettrait de vraiment trancher là-dedans. Mais c'est en principe, il faut bien trouver une explication au fait que la chimie du vivant soit asymétrique.
Ouais. En tout cas, cette brisure justement de symétrie, heureusement qu'elle a existé parce qu'on ne serait pas là pour en parler à ce micro, hein, puisque c'est la matière qui a pris le dessus sur l'antimatière.
Ah oui, ou alors on serait dans un anti-studio.
Peut-être aussi. Il faudrait parler de la symétrie, de la dissymétrie à l'échelle quantique. Alors il y a plein de choses aussi dans ces états particuliers de la matière qui sont intéressants. Les questions des auditeurs. Marie nous dit avec mon compagnon, nous sommes fait courser par des chiens lorsque nous étions en balade à vélo. Arrivé à une fourche, je me suis enfoui par la route à droite tandis que mon compagnon est parti à gauche. Il est gaucher, je suis droitière. Pensez-vous qu'il y ait un lien, Jacqueline Fagard? On parlait tout à l'heure des attitudes,
oui,
justement.
Je pense que les tendances directionnelles dont on parlait au début, elles ne semblent pas tellement liées à la préférence manuelle. Ce qui pourrait être lié à la préférence manuelle, c'est la façon dont cette dame et son compagnon se sont mis à côté. Et peut-être qu'un avait été à gauche et l'autre à droite, je ne sais pas.
Ouais. Le poisson zèbre, il a tendance à tourner dans son bocal plutôt sur la gauche ou sur la droite, Myriam Rossigny ?
Les poissons zèbres, comme plein d'autres animaux, comme le disait Frédéric, ont des asymétries de comportement. C'est essentiellement lié à la symétrie visuelle, au fait qu'ils préfèrent utiliser un œil pour certaines tâches et l'autre œil pour d'autres tâches. Donc, par exemple, pour regarder une scène familière ou regarder des congénères, ils vont utiliser l'œil gauche et ils vont utiliser l'œil droit pour regarder, pour observer des proies potentielles ou des prédateurs potentiels. Et donc, ces asymétries ces asymétries de comportement sont donc à une asymétrie d'utilisation des yeux. Et donc, je pense que dans ce réflexe de fuite-là de vos auditeurs, c'est peut-être plus l'asymétrie dans l'œil directeur peut-être que la symétrie manuelle qui était importante pour décider de leur choix peut-être.
C'est la réclamant.
Sinon c'est le hasard.
Mais je pense que pour transformer ça en une vraie observation scientifique, il faudrait envoyer 100 chiens derrière 200 cyclistes, dont 100 gauchers et 100 droitiers, et faire une vraie statistique.
Ben voilà, et vous viendrez nous en reparler lorsque ce sera fait. Wendy nous dit, mon fils a toujours choisi sa main gauche bébé. À l'école, il semble choisir la main droite, mais à la maison, il prend ses crayons des deux mains. Que penser de cela, Jacqueline Fagard? C'est un comportement minoritaire
D'utiliser sa main gauche?
Le fait comme ça, selon l'endroit où on se trouve, de choisir une main ou une autre à l'école, la maison?
Non, beaucoup d'enfants jusqu'à un âge assez, jusqu'à 3-4 ans, ont une hésitation pour la main préférée. Hein. Il y a des bébés, j'observe des bébés, à peu près 30% des bébés qui sont droitiers dès l'âge de 6 mois et qui ne vont pas bouger.
Ouais.
Mais il y en a beaucoup qui sont, alors pourquoi, on pourrait en discuter longtemps, mais qui sont pendant longtemps et qui fluctuent pendant longtemps. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise sa main droite à l'école et ça montre bien l'aspect culturel de la préférence manuelle. C'est-à-dire que quand on hésite un petit peu, eh bien on a un petit peu tendance à faire comme tout le monde. C'est peut-être aussi pour ça que la droiterie se perpétue comme ça.
Lucie nous dit, je suis gauchère, mon mari est droitier. Sur nos 4 enfants, 2 sont droitiers, 2 sont gauchers. Pensez-vous que la génétique peut intervenir dans cette prédisposition? Alors, qui veut répondre?
Moi,
Jacqueline Fagard.
Je veux bien répondre. Oui, on a longtemps dit la preuve que l'origine de la préférence manuelle, c'est génétique, c'est que les familles de gauchers, les parents gauchers, ont plus de chances d'avoir des enfants gauchers que les parents droitiers. Mmh. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que même quand il y a deux parents gauchers, on a encore 70%
de droitiers.
D'enfants droitiers.
Ouais.
Et moi, j'ai aussi montré dans une recherche que si on montrait à des bébés de 12 mois une nouvelle action, par exemple appuyer sur un bouton pour faire de la musique, et que c'était un expérimentateur gaucher qui lui faisait la démonstration, même si le bébé était arrivé droitier au laboratoire, il se mettait à utiliser sa main gauche.
Ouais.
Donc je pense que la famille de gauchères, ça peut aussi marcher sur le plan de l'observation et pas seulement par les gènes.
Myriam Moussigné.
Oui, on a longtemps cru que la symétrie manuelle était probablement le fait d'un gène, et ce gène a été cherché pendant de longues années par certains chercheurs. Il apparaît maintenant, donc ça c'est des études assez récentes, des études de génomique globale où on compare tous les génomes, puisque maintenant on a accès à des grandes banques de données de génomes chez l'humain, et donc on compare les génomes de droitier et de gaucher, et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas une mutation qui ressort commune au droitier ou au gaucher.
Donc il n'y a pas le gène du droitier et le gène du gaucher.
Non, donc il semble, donc là c'est assez officiel depuis à peu près 5-6 ans que c'est quelque chose, c'est certainement lié aux gènes, mais c'est multigénétique. Ça impliquerait plusieurs gènes.
Ouais.
C'est d'où la difficulté de les identifier.
Cro-Magnon, Néandertal, droitier, gaucher ou droitier en grande majorité?
Alors, on est assez clairement convaincu que les pourcentages de gauchers étaient les mêmes chez l'homme de Cro-Magnon, parce qu'on a les...
Que chez l'homme moderne, vous voulez dire?
Que chez l'homme moderne, oui, tout à fait. Puisqu'on a les traces des mains en négatif sur les parois des grottes, et ces empreintes sont faites en posant une main sur le rocher et en projetant de la peinture.
Ouais.
Et on a fait refaire cette expérience, je crois que ça a été fait à Montpellier, par des étudiants. Et on s'aperçoit que les étudiants droitiers mettent en majorité leur main gauche sur la paroi, et les Cro-Magnon faisaient le même. Ouais. Donc on est à peu près au même pourcentage. Effectivement, c'est troublant de voir le même pourcentage aussi stable au cours du temps.
Et c'est la science insolite de la symétrie, hein, de la hola au neutrino. Et c'est aux éditions du Seuil. Merci Frédéric Flamand, ainsi qu'à vous Jacqueline Fagard et Myriam Roussigné pour vos explications.